L'exposition « Des Lumières dans la nuit, les Justes parmi les nations d'Alsace », initiée par le FJU, a pris place au Parlement européen pendant la session plénière du mois de juin, grâce au soutien de la députée européenne Anne Sander. Retrouvez différents intervenants, dont Anne Sander, députée européenne.
Quelle est la portée, quel est le symbolisme d'accueillir cette exposition plus particulièrement dans un lieu où autant de nationalités sont représentées?
Je crois que c'est important, eh bien, lorsqu'on construit des politiques européennes pour l'avenir, c'est important aussi de se rappeler d'où on vient et quel est notre passé. Et je crois que dans une institution qui au quotidien se préoccupe des droits de l'homme, des libertés fondamentales et qui œuvre pour la paix, eh bien c'est important de rappeler notre histoire et de rappeler l'action de la société civile, d'Européens, alors là en l'occurrence de personnes issues d'Alsace, qui se sont mobilisées pour sauver des vies et pour faire en sorte de retrouver la paix sur le continent européen.
Qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a marqué quand vous l'avez découverte ?
Oui, effectivement, moi je me suis préparée, enfin la toute première fois, parce que j'étais là au lancement de l'exposition au Palais Universitaire. C'est une exposition sur les Justes d'Alsace. Donc c'est les familles qui ont accueilli, des familles juives qui sont mobilisées pour elles, pour les aider. Et puis il y a un panneau qui indique qu'il n'y a que 3 Justes en Alsace. Et je me dis, mais c'est curieux. Et c'est vrai que ça m'a vraiment interpellée jusqu'à ce que je lise les explications. Et effectivement, à cette époque-là, il n'y avait déjà plus de Juifs en Alsace. Les Juifs, déjà, avaient fui, n'étaient plus présents en Alsace. Et c'est vrai que ça, c'est un élément auquel je n'avais pas forcément pensé. Quand on dit les Justes d'Alsace, on s'imagine une forte population. Mais non, ce sont vraiment des Justes issus de l'Alsace et qui ont œuvré en France, mais aussi dans différents pays européens. Mais on voit bien à travers l'exposition eh bien, que c'est juste, certains étaient présents en Italie, certains sont même de Belgique, enfin, de différents pays européens. Et je pense que ça va être l'étape supplémentaire, en tout cas, l'étape suivante, en tout cas pour ma part, de voir comment on les reconnaît dans les autres pays européens. Mais je crois que cette reconnaissance de juste, eh bien, elle est... Elle s'applique aussi à des citoyens, à des personnes qui ont agi dans d'autres pays à travers le monde.
Vous êtes l'arrière-petit-fils donc de Monsieur Timesh.
Oui.
Vous êtes la génération la plus loin, la plus éloignée qu'on puisse trouver par rapport à cette exposition finalement. Ça vous fait quoi d'être aujourd'hui au Parlement européen et qu'on parle de votre ancêtre qui a été un juste parmi les justes en Alsace?
Je trouve qu'être au Parlement européen, c'est vraiment la substantifique moelle de l'existence du Parlement européen. C'est que le projet européen est venu justement à la suite de la guerre. Ça nous permet de nous rappeler en tant qu'Européens pourquoi il y a l'Europe et de se rappeler que avant d'être la grande institution peut-être bureaucratique qu'on voit parfois, c'est avant tout quelque chose d'une institution de paix et que pour permettre cette paix, bah, y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour sauver des gens et je pense que c'est un bon modèle de vie qu'on peut avoir aujourd'hui dans une société qui devient un peu égoïste d'une certaine manière.
Avant d'être contacté, vous aviez connaissance de ce qu'avait fait votre arrière-grand-père en fait pendant la guerre, où vous avez découvert au fur et à mesure tout ce qui s'était passé?
Alors c'est une histoire assez intéressante, moi ça m'a beaucoup renforcé dans ma foi parce que c'est beaucoup de, en fait c'est des petits clins d'œil, des petits hasards on va dire, des circonstances, des concours de circonstances mais qui se sont tellement enchaînés qu'en fait on a du mal à croire que c'est du hasard. En fait, c'est mon père qui a eu le premier contact avec des gens qui ont été sauvés par mon arrière-grand-père quand il était à Londres. Donc c'est vraiment un truc par hasard. De fil en aiguille, on est retourné sur ses traces. Et quand je suis devenu adulte et que j'ai eu vent de ce qu'il avait fait, j'ai été très fier. Et puis je m'en suis servi aussi comme un exemple de vie, de ne pas attendre que les autres fassent la bonne chose pour faire le bien. Donc aujourd'hui, c'est un exemple. Et il y a quelques mois, j'ai également changé mon nom pour intégrer le nom de mon arrière-grand-père aussi. Donc voilà, je suis passé de Zachary Oudard à Zachary Timesh Oudard. Donc je suis aussi très fier de ça. Je pense que c'est important de se rappeler des personnes comme ça qui sont vaillantes et altruistes. Sinon, je pense que notre société peut vite tourner à une bataille d'ego et d'ambition individuelle. Et je pense que c'est quand même important de se rappeler qu'on a quand même une différence avec les animaux, c'est qu'on a quand même une certaine humanité au sens propre, un sens d'amour de l'autre. Et je pense que c'est important de le perpétuer aujourd'hui.
Martine Dietrich, élue de la collectivité européenne d'Alsace, en charge des relations avec les cultes et le dialogue interreligieux.
C'est une exposition qui tourne effectivement principalement dans les collèges également, dans les lycées. Ça a également été au Sénat en juillet dernier. C'est vrai qu'il faut faire montrer cette page de l'histoire que l'on a vécue en Alsace. Je regrette une chose, c'est qu'effectivement dans les manuels d'histoire, cet enseignement n'est pas inscrit, que ce soit donc les incorporés de force, les malgré nous, et également cette page d'histoire. Moi, je vois dans ma famille, où j'ai effectivement mes belles-filles qui ne sont pas du tout originaires d'Alsace, une est de Paris, l'autre de Bordeaux, et bien quand on leur explique tout ça, ils tombent des nues. Cette histoire n'est absolument pas connue, et c'est dommage que l'éducation nationale ne le prenne pas en charge. Malheureusement ou heureusement qu'effectivement ces expositions, c'est un travail fou, mais que ces expositions puissent exister pour qu'effectivement on puisse en parler.
Surtout qu'on a une course contre la montre maintenant, puisque les derniers, effectivement, sont tentés à disparaître. Les descendants de Juste aussi, ont vieilli aussi. Donc une vraie course contre la montre.
Oui, malheureusement, mais tout ça, effectivement, les derniers survivants ont disparu ou disparaissent. Alors est-ce que... Il y a des justes qui ont effectivement fait un mémoire, un livre pour pouvoir transmettre ou pas, ça aussi. Idem, comme dit pour les incorporés de force ou les malgré nous, si effectivement l'histoire n'est pas racontée de génération en génération, malheureusement, d'ici quelques temps, on n'en entendra plus parler du tout.
Ilana Sicurel, députée européenne.
Écoutez, moi je trouve ça magnifique et je trouve que c'est une très belle manière de parler de cette période douloureuse que de passer par ces figures plus que positives, ces figures héroïques que sont les justes. Et je pense qu'en termes pédagogiques, puisque moi je m'occupe beaucoup d'éducation, je trouve que de passer par les justes, sans pour autant évidemment occulter le fait que tout le monde n'a pas été juste, évidemment, malheureusement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ces figures de justes sont des figures dans lesquelles les jeunes peuvent se projeter. Donc je trouve ça extrêmement émouvant. Je salue l'initiative de ma collègue Anne Sanders et de l'avoir au cœur du Parlement me touche beaucoup. Deux petites choses. Il se trouve que si nous étions à Bruxelles, nous avons inauguré avec le président d'Israël, il y a peu de temps, un mémorial de la Shoah qui a une forme bien particulière. C'est une très belle toile qui est une réplique d'une toile de Félix Nussbaum, 1939, où on voit un juif recroquevillé sur lui-même, un homme en fait, oui, qu'on comprend être juif, et qui se sent abandonné. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans l'hémicycle, on a cette magnifique toile qui nous accompagne. Donc on a une responsabilité par rapport à la mémoire de ce qui s'est passé. Et je ne peux pas ne pas faire le lien avec ce qui se passe en Pologne en ce moment, puisque j'ai fait récemment une mission en Pologne. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement actuel est dans un déni de ce qui s'est passé en Pologne total et veut imposer un récit officiel qui est, c'est pas très subtil, c'est l'ensemble de la Pologne a été héroïque. Et il y a une chercheuse à laquelle je veux rendre hommage, qui s'appelle Barbara Engelking, qui fait depuis 30 ans des recherches pour montrer les choses dans leur réalité et leur complexité. C'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr de la résistance en Pologne, mais il y a eu aussi malheureusement beaucoup de Polonais qui ont prêté main forte aux nazis. Et là, quand on est un pays d'Europe, on doit regarder son histoire en face. Et quand je vous parle de Pologne, je vous parle d'un pays de l'Union européenne qui n'a pas fait le travail que d'autres ont fait comme l'Allemagne et comme aussi la France. Chacun d'entre nous a une histoire complexe, doit y faire face. Et je pense qu'il n'est pas aujourd'hui concevable d'appartenir à l'Europe sans avoir un rapport, je dirais, adulte et lucide par rapport à son histoire. Et c'est de l'actualité, puisque en Pologne, on a coupé une partie des fonds à Barbara Engelking, tout simplement parce qu'elle disait la vérité, et de manière assez modérée d'ailleurs, subtile, comme une vraie historienne, sur ce qui s'était passé en Pologne. Si on ne dit pas « tout le monde est héros », eh ben on n'a plus le droit de parler en Pologne. Et on est dans l'Union européenne. Vous voyez combien il est important en fait, de maintenir ce lien avec l'histoire. un lien qui n'est pas, d'ailleurs j'aime beaucoup la formule de Simone Veil, c'est pas un devoir de mémoire, c'est un travail de mémoire, c'est-à-dire c'est la connaissance dans toute sa complexité du passé, et dans cette complexité il y a aussi les justes, et ça c'est la lumière qui nous fait aussi avoir de l'espoir, et je trouve que c'est très joli d'en parler comme ça aux jeunes générations.
François Bellamy, député européen.
Pour nous c'est très important, et que grâce à la présidente du Parlement cette exposition puisse se dérouler ici. L'historienne qui vient de s'exprimer rappelait les mots de Simone Veil sur le devoir de mémoire qui est au cœur du projet européen et qui de ce fait doit aussi être au cœur du Parlement européen. Et dans un moment où nous sommes confrontés à des défis qui sont immenses, il est fondamental que nous nous laissions inspirer, éclairer par le visage de ces justes parmi les nations, par le visage de celles et ceux qu'ils ont sauvés, pour pouvoir puiser dans cette mémoire le courage d'agir aussi face à tout ce qui constitue notre actualité et tout ce qui doit faire aujourd'hui les grandes décisions européennes.
Est-ce que vous pensez que justement il faut de plus en plus de ce genre d'initiatives face à une jeunesse qui finalement se préoccupe peu de ce qui s'est passé et des origines de leurs parents et de ce qui a pu se passer il n'y a pas si longtemps que ça?
Moi, je le dis comme professeur, je crois que nous vivons une crise de la transmission. Et j'ai eu l'occasion d'alerter bien souvent sur cette question, et cette crise de la transmission, elle touche en particulier, ce qui est extrêmement grave, la transmission de la mémoire de la Shoah en particulier. Ce déni de réalité entretient la montée d'un nouvel antisémitisme qui devient une véritable menace, un vrai danger qui est aujourd'hui un sujet majeur auquel la communauté juive est de nouveau confrontée. Qui aurait pu penser que dans notre pays, la France, que dans nos pays européens, quelques décennies après ce crime contre l'humanité, reviendrait le visage de la haine, le visage de la violence, parfois physique, de l'intimidation. Tout cela s'enracine aussi dans le fait que nous n'avons pas su transmettre cette mémoire, parfois par défaillance, parfois même, il faut bien le reconnaître, par lâcheté. Et nous avons le devoir, encore une fois, je le redis, d'aller chercher dans le courage de ces justes de quoi être à notre tour, autant que possible, humblement, des justes qui transmettent, qui enseignent. Winston Churchill, qui est un grand Européen, avait dit que tout pays qui oublie son passé s'expose à le revivre. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes là pour dire qu'il est urgent de transmettre. Et cette exposition, c'est ce qu'il y a de plus beau. Elle est itinérante, elle va aller au contact des élèves, des collégiens, des lycéens, dans les établissements scolaires. Et c'est tout ce que nous souhaitons de mieux, c'est d'éveiller des consciences à l'urgence de cette mémoire.
Richard Abouaf, co-commissaire de l'exposition, président de Stolperstein 67, qui a récemment honoré la mémoire d'Alfred Timesch, juste parmi les nations d'Alsace, d'un pavé de mémoire à Strasbourg.
Alors pour l'instant, d'après ce qu'on sait, on est la seule région à avoir engagé un travail de mémoire de ce type-là sur les justes. Alors ce qu'il faut dire également, c'est que Lucien Lazare, l'historien, avait fait un travail dans les années 70-80. Il en avait établi, il avait trouvé 35 justes. Et nous, on a doublé pratiquement ce chiffre puisqu'on est arrivé à 78 avec des critères bien, bien définis. Donc voilà, c'est un travail qui a pris plus de 2 ans pendant le Covid. Et puis on s'est réunis également quand on le pouvait, des contacts permanents, quasi quotidiens, avec des descendants, avec des archives, avec des institutions. Donc on est arrivé à réaliser quelque chose, je pense, de très intéressant avec Edith de Rousseau-Medrano, qui a été la commissaire d'exposition, qui est une historienne et qui a travaillé également avec Frédéric Naudufour et puis tout le comité de pilotage également. Donc chacun avait ses orientations de travail et de recherche, et puis on est arrivé quand même à faire quelque chose d'intéressant et de très beau, je trouve.